Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Merci à Radio Courtoisie de nous permettre de diffuser cette émission chaque dimanche à 17h30. Alors vous pouvez retrouver toutes nos émissions en accès libre sur notre site mariedenazareth.com en faisant défiler la page jusqu'au bas. Vous trouverez podcast Magnificat et en cliquant dessus, vous pourrez écouter toutes les émissions passées. Alors, en ce 9 mars, je voudrais souhaiter une belle fête à toutes les Frances, dont Sainte Françoise Romaine est la Sainte Patronne. Je pense particulièrement à l'une d'entre elles, et ce n'est pas moi. Bonjour Justina.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'œcuménisme, mais uniquement les relations entre chrétiens orthodoxes et les catholiques romains. Eh bien, nous allons donc nous retrouver dans quelques instants. Juste le temps de vous annoncer mon invité après la pause musicale. Alors vraiment, j'ai la grande joie d'accueillir de nouveau Raymond Magnan. Bonjour Raymond.
Bonjour France, merci de m'inviter.
Avec joie, qui nous avait fait l'honneur de venir dans notre émission il y a presque un an.
Tout à fait.
Alors, Justina, parlons à présent d'œcuménisme.
Oui, j'ai donné le titre « Les défis de l'œcuménisme ». Et aujourd'hui, je veux aborder un sujet d'actualité qui concerne essentiellement les relations entre les chrétiens orthodoxes et les catholiques romains, puisque cette année, nous célébrons Pâques en même temps, et il y aura aussi des rencontres pour fêter l'anniversaire du Concile de Nicée, qui s'est produit en 325. Et cette information suscite beaucoup de réactions différentes dans les milieux orthodoxes et catholiques. Certains se réjouissent en disant « Youpi, enfin un pas vers l'unité, on va tous s'unir, c'est génial ». D'autres prévoient leur retraite en forêt en craignant l'union qui, selon eux, va mener à l'apostasie générale et à la fin des temps. J'aimerais aussi m'exprimer sur le sujet en clarifiant certaines choses. Peut-être que je ne me ferai pas beaucoup d'amis, j'assume pleinement ce risque. Premièrement, parlons de la date de Pâques. Actuellement, la date de Pâques, du côté orthodoxe, se calcule selon les mêmes règles que chez les catholiques romains. Cette méthode de calcul a été justement fixée au Concile de Nicée. La méthode est simple. Le premier dimanche, après la première pleine lune, après le solstice de printemps. Le bémol est que le solstice de printemps est défini par le calendrier julien, qui à ce jour contient 13 jours de décalage par rapport au calendrier grégorien, qui est aussi notre calendrier civil. De ce fait, les orthodoxes et les catholiques fêtent Pâques en même temps, à peu près une fois tous les 4 ou 5 ans.
Alors juste, donc Pâques est le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps, donc à partir du 21 mars, et ce depuis l'an 325, c'est ça? Donc 1700 ans.
Oui.
D'accord.
Donc il n'y a rien de nouveau cette année, il n'y a pas de quoi sonner les cloches. Maintenant parlons de l'anniversaire du Concile de Nicée. Bon, quand une date devient ronde, c'est toujours une occasion de prendre l'apéro, il n'y a aucun mal à cela. Mais déduire de cela une union imminente serait naïf. De plus, ce n'est pas la question de calendrier ou de la célébration de dates de Pâques qui ont causé notre séparation. Et les chrétiens occidentaux fêtent Pâques le même jour, les catholiques romains et les protestants. Ce n'est pas pour autant qu'on parle d'unité. L'autre aspect, je vais être vraiment sincère, premièrement, l'unité des chrétiens, c'est un but vers lequel nous devons nous tourner. C'est même un commandement divin. Mais, et là il y a des mais, revenons sur terre et faisons un état des lieux. Nous avons d'un côté l'Église catholique romaine, avec son ecclésiologie, sa théologie, sa piété, et une certaine centralisation d'administration. Elle a aussi des soucis internes, des conflits entre plusieurs mouvances internes, et même si ces conflits ne concernent pas les points de doctrine, on ne peut nier l'existence de tensions internes. De l'autre côté, nous avons l'Église orthodoxe, qui se manifeste sur les territoires sous la forme de 15 églises locales autocéphales. Ces églises locales ont la même foi, mais ont aussi des conflits entre elles, en général sur des points territoriaux. De plus, au sein de cette même église orthodoxe, il existe plusieurs calendriers en même temps, ainsi que la tradition canonique, ne pas confondre avec le dogme, qui est variable en fonction des lieux. Cela fait plus de 1000 ans que nous ne sommes pas réunis entre nous, entre orthodoxes, en concile, pour faire une mise au point sur certains aspects de notre vie liturgique, la tradition canonique, la discipline, etc. Donc si on veut chercher l'unité entre ces deux colosses, il faudrait avant tout qu'on trouve une unité plus solide dans nos crèmeries respectives. Et là, je vais me prononcer que pour la mienne, pour la crèmerie orthodoxe, et je parlerai un petit peu plus tard des enjeux. Mais Et en plus, il faudrait commencer par un travail de recherche de compromis théologique, c'est-à-dire prendre les meilleurs théologiens des deux côtés, les enfermer, de préférence dans un restaurant géorgien, avec le vin et les brochettes à volonté, et tout ceci pendant une bonne cinquantaine d'années. Alors, ce n'est pas gagné, mais j'essaie d'être optimiste.
Vous avez raison.
Admettons que le compromis soit trouvé au bout d'un certain temps, puis admettons qu'il soit signé. Nous aurons alors le problème de la réception. Car vous pouvez signer toutes les déclarations au monde, mais si le peuple de Dieu ne l'accepte pas, nous allons nous retrouver avec des schismes un peu partout, et au lieu de gagner l'unité, nous allons briser 10 fois plus de vases. Vu nos états actuels respectifs, outre les questions de théologie et de la réception ecclésiale, est-ce que cette unité va arranger nos évêques? Je n'en suis pas si certaine. Donc, je n'ai rien à dire au nom des catholiques romains, mais je sais pertinemment que l'union ne conviendra pas au patriarche œcuménique, Bartholomée, que ce soit Bartholomée ou quelqu'un d'autre, même si beaucoup pensent que si. Et là, je vous propose juste de se mettre un petit peu à sa place. Vous êtes le patriarche œcuménique. La grande majorité de vos paroisses ne se trouvent pas près de vous, parce qu'ils ont un nombre de paroisses en Turquie, mais finalement, les plus grands actifs diocésains se trouvent en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et selon notre propre droit canon, on rentre en communion avec Rome, on devrait laisser ces territoires canoniques au siège romain. Donc, excusez-moi, mais soyons terre à terre. En tant que manager, est-ce que vous voulez perdre 80% de vos actifs?
Bien sûr que non.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne peux pas, bien sûr, me prononcer à la place, mais soyons réalistes. Et pour les autres patriarches, j'en parle même pas du patriarche Kirill de Moscou, qui est à deux doigts de nier l'existence de l'orthodoxie mondiale, les Roumains sont fiers d'être les orthodoxes les plus nombreux en Europe. Donc, je ne sais pas si je vous annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il est beaucoup trop tôt pour se réjouir, comme il est aussi inutile d'aller creuser des cavernes pour se cacher dans le but de préserver la tradition.
Merci beaucoup, Justina. Alors, nous allons écouter à présent « Joie pour les pauvres, gloire à Bernadette », parce que nous parlerons un petit peu de Bernadette tout à l'heure. Donc, je trouvais intéressant d'écouter ce CD des petits chanteurs de Saint-Martin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, bienvenue Raymond, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, merci. C'est une joie pour moi d'être dans votre émission qui respire toujours la spiritualité et la dit si bien.
Merci beaucoup et merci pour tout ce que vous m'envoyez en cours d'année, vos écrits. Et c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui, pour que nous puissions parler un petit peu de Bernadette, parce que vous travaillez actuellement sur un ouvrage sur Bernadette.
C'est exact.
Je disais la dernière fois que vous aviez eu l'incroyable chance de rencontrer François Mauriac. J'aimerais que nous en parlions un petit peu aujourd'hui, pour qu'on apprenne à vous connaître un petit peu plus. François Mauriac, vous aviez 17 ans lorsque vous l'avez rencontré, donc vous étiez déjà...
Voilà, j'étais déjà un adolescent.
Oui, un grand adolescent.
Oui, oui.
Et vous écriviez déjà, n'est-ce pas?
Voilà, j'écrivais un tout petit peu encore, j'écrivais exactement Le Voyage au pays d'autrefois.
Et voilà. Alors, il l'a su?
Oui. Oui.
Comment ça s'est passé cette rencontre?
Il ne l'a pas lu, hein. il n'a pas lu, mais... par l'intermédiaire de mon père, qui lui en a parlé, il m'a posé directement la question, quels étaient mes travaux, et il a eu cette phrase qui m'a toujours frappé, hein, « Vous écrivez, mais la vie ne vous sera pas facile ». Il m'a toujours dit ça.
Oui. Bon. Est-ce qu'il avait raison?
Je pense qu'il avait raison. Avec le recul du temps, je crois qu'il avait vraiment raison, oui.
Oui.
Et... Et c'est pour ça que il m'a beaucoup apporté, évidemment, parce que bon, je suis né quand même à Langon, à quelques kilomètres de Malagar. Mon père connaissait le frère de François Mauriac, le professeur Pierre Mauriac. Et j'ai vécu pendant 10 années dans cette atmosphère de Gironde, avec les pins, avec cette atmosphère, vous voyez, je pense à cette citation dans nos campagnes girondines, je ne me suis pas arrêté de vivre. Hier comme aujourd'hui, j'entends le vent dans les pins. Ça me parlait beaucoup parce que j'aimais aller dans ces terres sauvages, parcourues de bruyères, voilà. Et puis il y a aussi le message de Mauriac qui dit que toute œuvre sincère ne saurait être condamnable et tout drame inventé reflète un drame qui ne s'invente pas. Voilà, disait-il. Et ça, je pense que c'est assez profond parce que quand on pense évidemment à Thérèse, Escaïrou, quand on pense à la chair et le sang, quand on pense surtout à Destin, il y a toute cette tragédie humaine mais partagée entre la grâce, Dieu et la chair, voilà. Dieu est Mammon, comme il disait.
Et alors tout cela vous porte dans votre vie d'écrivain?
Tout à fait, France. Ça m'importe dans ma vie d'écrivain. Ça a eu beaucoup, beaucoup d'influence sur mes écrits, bon, souvent autobiographiques, et puis aussi vers la spiritualité, d'où le livre sur Jacques Rivière.
Oui.
Ami, évidemment, que François Mauriac a écrit Le Tourment de Jacques Rivière. Et puis, tout cet univers qui est là et qui m'hante encore actuellement, oui. Voilà.
Ah oui.
Oui, tout à fait.
Alors, un autre homme a beaucoup compté aussi dans votre vie d'écrivain, c'est Julien Gracq.
Oui. Bien sûr. Oui.
Avec lequel vous avez énormément correspondu.
Voilà, très fidèlement, tous les ans, je recevais un petit Bristol.
Oui.
Voilà, jusqu'à la fin.
Oui.
Et c'est un homme qui est très, très fidèle en amitié. Très réservé, évidemment. Toujours cette stature un peu hiératique.
Mais vous ne vous êtes jamais rencontrés.
Jamais.
Oui, c'est
jamais.
Ça. C'est une relation épistolaire,
voilà,
vraiment.
Épistolaire, voilà.
Oui.
À partir de, je lui ai envoyé spontanément un Aude ou les flaques de nuit. C'était un de mes premiers, deuxième romans exactement. Et c'est là qu'il m'a dit que voilà, vous ne vous appesantissez pas sur les choses, mais vous les disiez en vérité et en profondeur.
Oui.
Et là, évidemment, à partir de là, c'est créé un échange, hein, oui. un échange. Mais toujours, comment dirais-je, on n'avait pas un véritable partage littéraire. On avait une amitié, tout simplement,
oui.
voilà, hein, et qui s'est poursuivie. Voilà, de temps en temps, je lui parlais évidemment de son œuvre, hein, surtout les carnets du Grand Chemin. Et puis, évidemment, de la littérature, puisque quand il a écrit la littérature à l'estomac, c'était vraiment quelque chose. Il s'insurgeait contre les nouvelles tendances, le nouveau roman. Donc, j'allais dans ce sens-là.
Oui.
Voilà, j'allais dans le sens de l'écriture, la vraie écriture. Le style, le beau, l'expression directe.
Tout ce qu'on trouve dans
oui.
vos livres et qui nous porte. Oui, oui,
merci.
Bien sûr.
Et
oui,
la poésie.
Oui. oui.
Voilà, très importante pour moi, oui.
Alors, François Mauriac que vous avez rencontré, Julien Gracq avec lequel vous avez écrit,
voilà.
deux formes d'amitié particulières et une autre amitié, elle, spirituelle avec Bernadette.
Voilà.
Vous étiez venu voilà. déjà nous parler de Bernadette la dernière fois.
Voilà.
Je crois que vous avez quelque chose à nous lire sur Bernadette.
Oui, oui, oui.
Alors, d'où est-ce tiré ce que vous allez nous lire maintenant?
Alors, ce que je vais lire là, ce sont essentiellement sur les sources, vous voulez
oui.
dire. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, j'ai une source qui m'a... D'abord, Les Foules de Lourdes,
oui.
de Huysmans.
Oui.
Ensuite, un livre qui était très important pour moi, de Gilbert Cesbron.
Oui.
Qui s'appelait « Il suffit d'aimer
oui. »
de Gilbert Cesbron. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le livre de Marcel Auclair
oui.
qui s'appelle « Bernadette ».
Ah oui.
Voilà.
Oui. Marcel Elle... Auclair qui a écrit un remarquable livre sur Sainte Thérèse d'Avila.
Voilà. Vous voyez, donc il y a... Voilà.
Mm.
Et alors d'autre part, il y a quand même cette affinité directe parce que, bon, Lourdes pour moi, bon, maman était vraiment m'a amené à faire le pèlerinage.
Oui.
Et mon père s'est marié à Lourdes. Voilà.
Ah oui.
Donc voilà, il
ouais.
y a ce lien-là, hein, on peut dire. Voilà. Et puis le dernier pèlerinage que j'ai effectué m'a beaucoup, beaucoup profondément marqué. C'était un mois après le décès de papa, en 1978.
D'accord.
Et c'est là que j'ai vu le cachot, que j'ai revu... Ben les grandes étapes de Lourdes.
D'accord. Alors, on vous écoute.
Bien. Donc, je vais lire ce texte. Donc, Lourdes dépasse le jugement, rend dérisoire l'analyse objective. Lourdes existe, voilà tout, comme l'eau coulant dans l'eau, comme l'air circulant dans l'air. Au-delà, Lourdes existe encore au fond de nous, en face de nous, nous gêne et nous console à la fois, nous met en cause et nous justifie. Car ce que nous cachons, nous le connaissons sans nous l'avouer. Nous aussi, nous avons à guérir. Est-on sûr d'y voir plus clair que l'aveugle qui chante dans le noir? Lourdes est là pour nous rappeler que la foi, notre foi, n'est rien d'autre qu'une imposture si nous ne croyons pas pouvoir la séparer de la vie. Nous gardons à la main les ronces qui ensanglantait le visage du Christ. Voilà. Et quelque chose a mis des baumes sous nos pas, après la nuit et le matin dans nos yeux. Voilà. Et je voudrais dire
oui.
Quelque chose à propos de la croix.
Hein. Oui.
De quoi nous a servi cette croix devant laquelle nous nous sommes prosternés tant de fois? Cette croix qu'il aurait fallu aider à porter. De quoi nous a servi cette croix dont nous avons si souvent fait le signe? Il est tard dans la nuit de Lourdes. L'esplanade est devenue grise, heure pleine d'incertitude, où le ciel est plus clair que la terre. Les vents l'ont lavé de tous ses nuages, reflet d'un monde en miettes. L'espérance est ailleurs, elle est sans fin comme la vie quand elle commence. Le silence écoute, je pense à toi Bernadette.
Merci voilà. beaucoup. Alors
prie,
Bernadette,
France.
Vous travaillez actuellement sur un
voilà.
livre, un
voilà.
roman
Un roman, oui. On peut dire un roman parce que je ne voudrais pas faire l'apologie de Lourdes. Je voudrais voir la vie de Bernadette à travers les témoins qui ont traversé sa vie.
Alors ce sont des témoins sur lesquels vous avez fait des recherches?
Tout à fait.
Ça a dû vous prendre beaucoup de temps.
Oui.
Parce
oui.
que j'ai cru comprendre qu'il y a certains témoins qui existent réellement.
Tout à fait.
Et vous m'aviez dit d'autres qui n'existent pas, qui voilà. Ça peut être moi.
Voilà.
Ça peut être un miraculé.
L'anonyme, oui. Le miraculé, le malade anonyme.
Oui.
Et vous, oui.
Oui, ça peut être comme témoin de, pas forcément de ce que Bernadette a vu, mais témoin de ce qui se passe actuellement à Lourdes.
Voilà. Voilà. Mm. Et surtout de ce qu'on peut ressentir à travers tant de détresse, tant de souffrance, voyez. Le malade, je suis le malade anonyme, dit-il.
Oui.
Comme il y a le soldat inconnu. Je parle en mon nom. Mon nom est sans importance. Parler, c'est encore ma façon de prier. Lourdes est ma dernière chance. Ma chair reste ma chair. Ce poids inutile, ce piège. Et toi, Bernadette, tu n'as rien pris, rien gardé, rien que ce grand bonheur, violent et triste. Et tu es restée avec ton mal et avec ta vie. Pauvre, tu es restée pauvre. Libre, tu as été enfermée. Et je t'ai rencontrée, tu étais parmi la foule autour des malades. Et c'est vrai que quand on se trouve dans cette grotte et qu'on regarde la paroi,
oui.
on a l'impression qu'elle est là, qu'elle est avec nous, qu'elle est seule au milieu de la foule, mais que voilà, quelle est cette petite paysanne venue avec le car dans le paysage paroissial. Des heures et des heures, je t'ai regardé, je t'ai rapporté de Lourdes. Tu n'as pas besoin d'être là. J'ai seulement besoin de te savoir là. Toi, la seule miraculée que Lourdes n'ait pas guérie, aide-moi.
Vous voilà. Espérez construire dans ce livre, voilà comment je l'ai peut-être perçu, mais vous me direz si je me trompe, comme un reportage, en fait, comme si on interviewait
Exactement.
Au fur et à mesure
oui.
plusieurs personnes
voilà.
Qui nous parlent de Bernadette.
C'est ça.
Comme si elle était là, où il l'avait connue.
Voilà. La faire revivre
oui.
à travers ces gens qui finalement bon étaient quand même de son époque
oui.
mais qui évidemment ne voyaient rien
oui.
ils étaient aveugles mais il y avait
ils ne voyaient rien ils la voyaient voir quand
et
même.
Voilà ils la voyaient voir voilà.
Ça c'est quand
tout
même
comme
incroyable.
Tout comme ce petit meunier de sa vie
alors voilà. Qui est ce petit meunier de sa vie c'est
alors oui c'est un petit Il est très modeste, il prenait soin...
C'est un enfant
de, un enf, Oui,
ou un adolescent
il devait avoir 17 ans.
Ah oui.
17 ans. Camarade de Bernadette.
Oui.
Hein, quand elle allait jouer dans les champs du côté de Bartrès.
Oui, parce voilà. qu'on a tendance à ne pas penser que Bernadette
voilà.
a été une enfant comme
oui,
les autres.
Mais tout à fait.
On ne pense qu'aux apparitions,
voilà.
à tout ce qu'elle a subi
Exactement.
De la part des adultes.
Elle a été une petite fille, une petite fille même espiègle,
oui.
qui aimait bien courir à travers les champs, qui aimait, avec son chien Pigou. et puis qui s'extasiait. Elle était toujours contente, elle ne se plaignait jamais. Elle allait au catéchisme, elle ne savait pas ni lire ni écrire. Ce sont les sœurs de l'hospice de Lourdes qui lui ont appris.
Oui.
Donc,
est-ce
oui.
que vous avez fait parler des camarades de classe ou non ?
Alors, j'ai fait parler sa compagne, j'ai fait parler sa sœur,
oui.
j'ai fait parler sa mère, son père.
Oui.
Et puis alors, évidemment, la sœur Marie-Madeleine Douzou.
Oui.
Voilà, qui était
la sœur, la religieuse.
La religieuse.
Oui.
Voilà, la religieuse qui en fait l'enviait. Elle était jalouse en réalité. Donc elle lui a fait du mal. Elle lui a fait du mal, mais Bernadette elle-même, et j'ai retrouvé, elle a dit elle-même à ce sujet, pardonnez-moi, je lui dois beaucoup de reconnaissance par le bien qu'elle m'a fait. Qu'elle a fait à mon âme. Voilà ce que disait Bernadette. Et après, évidemment, à sa mort,
oui.
Sœur Marie-Thérèse Vauzou a reconnu qu'elle s'est fait toute petite. Elle a appris l'humilité, tout comme Bernadette. Elle est devenue une simple aide-soignante dans l'hospice de Lourdes. Elle soignait les malades, elle pansait les plaies.
Ah oui, elle a quitté Nevers.
Elle a quitté Nevers. Elle a quitté Nevers pour revenir à l'hospice de Lourdes. Voilà, et soigner les malades, tout comme une personne. Oui, parce que c'était comme une sorte de rachat. Mmh. Elle a dit, elle ne voulait plus avoir ce statut de mère supérieure. Voilà, c'était pas du tout.
Mais on dit effectivement que cette femme a été très très dure avec elle.
Très
Je crois que Sainte Bernadette a dit qu'elle avait embrassé tout le carrelage de.
Voilà.
Elle l'obligeait. Par humilité, voilà, embrasser les dalles. Mais. Bon, ne lui jetons pas trop la pierre, parce que ça doit être terrible d'être... En fait, on a face à soi quelqu'un qui a vu la Vierge Marie, et puis...
En fait, elle a été déçue. Elle l'a déçue, mais elle ne pouvait que décevoir, parce qu'elle disait les choses telles qu'elles étaient. Lorsqu'elle parlait de la dame, elle ne disait pas la dame, elle disait Akero.
Oui,
cette chose fantastique.
Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Mais alors, dès que vous aurez terminé votre livre... Eh bien, vous viendrez nous en parler ?
Alors, ça sera vraiment avec un immense plaisir.
Merci beaucoup.
Et je tiens à vous remercier de votre générosité, France.
Merci beaucoup, Raymond. À bientôt.
Merci, France.
Au revoir. Bonne semaine.